c'est un deux. Et deux mesures pianes, comme écho. Encore une fois.
Bartok a été pour moi la plus grande impression. Je me souviens encore de l'effet de choc que m'a produit la première fois que j'ai entendu la musique pour cordes, percussions et célestins. Le premier mouvement en particulier m'a plongé pour moi dans un univers tout à fait inconnu. Vous savez, la jeunesse est merveilleuse pour ça, les années d'adolescence, parce que vraiment, à chaque minute, pratiquement, on découvre.
Et découvrir Bartok ou le retrouver, c'est ce que nous ferons dans Continent Musique ce soir en compagnie de Renaud Capuçon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous jouez Bartok et ses deux concertos pour violon et orchestre, un disque qui vient de paraître chez Erato, deux concertos mouvementés comme leur histoire qui encadre presque la vie de Béla Bartok, le grand compositeur hongrois disparu en 1945, auquel vous avez consacré plus de 10 ans de votre vie, Claire de la Marche. Vous êtes musicologue et conservatrice de l'orgue de l'Auditorium Orchestre National de Lyon, auteur d'un ouvrage de référence consacré à Béla Bartok, édité chez Fayard. Béla Bartok, homme juste, comme vous l'expliquez dans la préface, on y reviendra sans doute. Pour Pierre Boulez, on l'entendait à l'instant, c'était musique pour cordes, percussions et célestins. Alors pour chacun de vous, c'était quoi le premier choc avec Bartok?
Alors d'abord, avant le choc, la première œuvre que j'ai entendue, c'était les danses roumaines de Bartok, que j'ai entendues à un stage de violon joué par un élève plus grand que moi quand j'étais très jeune. Donc ça, c'était la première approche. Et ensuite, l'œuvre que j'ai entendue et qui m'a le plus marqué, c'était le concerto pour orchestre, que j'ai entendu quand j'avais 15-16 ans et qui m'avait vraiment saisi. Quoi. La matière sonore, la violence, l'espèce de côté comme ça extrêmement épais et en même temps d'une grande, c'est un grand paradoxe je trouve chez Bartok, on peut en parler, mais avec ce côté très parfois brutal, enfin un peu beethovenien, très très fervent comme ça, et puis qui peut être complètement élégiaque et complètement presque fin, et ça m'avait énormément marqué à l'époque.
Alors on l'entend élégiaque et à la fois très fin chez Renaud Capuçon. Et pour vous, Claire de la Marche?
Ben, je vais être très originale. Alors la première œuvre, c'est la musique aussi, comme Pierre Boulez. J'ai eu la chance de la décortiquer au conservatoire en cours d'analyse. Et c'est vrai que c'est comme un puzzle extraordinaire. C'est inépuisable. Il y a un tel raffinement d'écriture qu'on peut y passer des mois, surtout quand on est étudiant, qu'on découvre tout ça. Et puis la deuxième pièce, ben, c'est comme Renaud, c'est le concerto pour orchestre, parce que c'est d'une certaine manière, c'est la somme. Tout ce qu'il a, c'est la dernière grande œuvre de Bartok, en tout cas pour orchestre. Il y a tout ce qui précède est dedans. Donc effectivement, il y a le Bartok très élégiaque, très très onirique. Il y a le Bartok brutal, il y a le Bartok sarcastique. Ça peut être très romantique, ça peut être. Il y a tout.
L'histoire de ce concerto est touchante. Il est tombé amoureux de cette jeune fille qui jouait si bien le violon. Du reste, je possède les lettres qu'il a écrites à Steffi Geier. C'est des lettres d'amour. C'était une très grande passion. Mais Steffi ne voulait rien savoir. Il lui a donné le manuscrit de ce concerto et elle ne l'a jamais joué pendant toute sa vie.
Le London Symphony Orchestra sous les directions de François-Xavier Roth et vous êtes au violon, Renaud Capuçon, pour servir, je vous cite, l'onirisme exalté de ce premier concerto pour violon de Béla Bartók. Alors, on entendait pendant la musique la voix du chef d'orchestre Paul Zacher, le chef d'orchestre suisse, qui a retrouvé ce manuscrit qui n'avait jamais été joué. Il faut en raconter l'histoire, puisqu'au fond, c'est une histoire d'amour qui sous-tend tout ce concerto.
Bartók était amoureux d'une violoniste qui s'appelait Steffi Geier, à qui il a envoyé le manuscrit, en tout cas à qui il a envoyé cette partition, et en résumé, elle a été ou effrayée, ou en tout cas elle n'a pas répondu à ses attentes. Voilà. Et on se disait en écoutant cet extrait que c'est quand même incroyable que voilà, si on écoute, si on entend ça, on a du mal à imaginer qu'on puisse refuser d'accepter une preuve d'amour comme celle-ci. Mais bon, on n'était pas là pour voir les tenants et les aboutissants, peut-être.
Ce que vous disiez aussi, quand on échangeait en écoutant la musique, c'est que finalement, c'était pas tout à fait le Bartók devenu Bartók. C'est-à-dire qu'il y a déjà, il y a quand même plus de réminiscences, d'écho à d'autres compositeurs dans cette pièce-là que par la suite.
C'est-à-dire, c'est vraiment la période charnière. Il a découvert le chant populaire hongrois 3 ans auparavant. Et c'est ça, la découverte de ce chant hongrois qui l'aidait à quitter le vieux monde tonal et qui précédait, donc le monde de Wagner, le monde de Strauss, qui était son univers jusque-là,
là,
le monde de Liszt aussi.
C'est beaucoup Strauss.
Là, c'est beaucoup Strauss. C'est un peu là qu'il était abouti. Et puis qu'il a poussé ce langage au maximum, et puis il avait besoin d'un déclic pour aller au-delà, pour trouver autre chose. Et le déclic, finalement, c'est ce qui est magnifique chez Bartók, c'est que ça a été des tout petits chants très humbles de paysans, qui ont été vraiment un choc esthétique pour lui et qui lui a fait passer ce cap. Et là, on est à la période charnière. Alors, il y a des pièces de cette époque-là qui vont beaucoup plus loin, qui sont déjà dans la recherche de ce nouveau langage. Mais là, il fait une lettre d'amour et il a encore besoin de ce qu'il maîtrise pleinement et puis de ce lyrisme, de cette expression très romantique qu'il a hérité de Strauss et de Wagner notamment.
Il y a aussi ce que vous décrivez dans votre livre comme le leitmotiv de Steffi, c'est-à-dire qu'il y a des images musicales qui vont
apparaître. Par exemple, la toute fin, les quatre dernières notes qu'on entend au violon avant la résolution, voilà, c'est un accord qu'on appelle une septième, c'est quatre notes qui forment l'accord de septième. C'est quelque chose qu'il a trouvé dans le chant populaire. Juste avant, il y a une série de chants populaires hongrois, donc il prend des chants auprès des paysans, il les harmonise, et c'est des chants qui utilisent une gamme de cinq notes. Et voilà l'exemple de comment, dans le chant populaire, il trouve des accords nouveaux dans son langage. Et cet accord de septième, quand il le trouve, il écrit tout de suite à Steffi, et il dit « voilà, c'est ton thème, et c'est le thème que je t'assigne ». Et toutes les œuvres de cette période, donc le premier mouvement du concerto, et puis toute une panoplie d'œuvres qui gravitent autour jusqu'au premier quatuor à cordes, qui est le chant de désespoir de Bartók après la rupture, vont utiliser ce thème de septième, qui vient de la musique populaire hongroise, mais qui est encore là, utilisé de manière assez straussienne. Et c'est un des deux thèmes, parce qu'il y a un deuxième thème beaucoup plus caustique, qui est Steffi fumant la pipe, et c'est celui qu'il y a dans le deuxième mouvement.
Alors Bartók était connu et réputé aussi comme excellent pianiste. Quelle compréhension et quelle approche il a du violon, selon vous, Renaud Capuçon, particulièrement ici, dans un concerto qu'il écrit pour une violoniste, puisque cette fameuse Steffi Geier, elle est violoniste, il a eu l'occasion de jouer avec elle.
Oui, clairement, on sent qu'il aime l'instrument aussi. Alors le premier concerto est très différent du deuxième, dont on parlera tout à l'heure. C'est une autre esthétique, ça n'a absolument rien à voir. Je dirais que dans le premier, il y a plus une difficulté sonore, c'est-à-dire à vraiment faire chanter à ce que les phrases n'arrêtent jamais. C'est une seule phrase en fait, ce mouvement. C'est une phrase de 12 minutes qui n'arrête pas. C'est pour ça que c'est un peu comme les métamorphoses de Strauss.
Alors vous racontez Claire de la Marche. Je reste encore un instant sur cet épisode malheureux dans la vie de Bartók, mais heureux pour la musique puisqu'il en reste de belles pages. Mais voilà, Steffi Geier d'ailleurs, va refuser ses avances. Et vous reproduisez dans votre livre quelques-unes des lettres qu'ils ont échangées et dont certaines vont être un peu violentes. Hein, celle du 5 février 1908. « Je crois que j'ai compris votre musique et je vous plains d'autant plus. » Voilà, c'est ce qu'on appelle un râteau. Et Bartók va essayer de se rattraper et envisage même de composer, vous disiez Renaud Capuçon, qu'il n'y avait que deux mouvements dans ce premier concerto. Il envisage même d'en faire un troisième, mais la musique serait laide.
Il a conçu ce concerto comme un portrait de Steffi. Donc le premier mouvement qu'on vient d'entendre, c'est la Steffi idéale, amoureuse, aimée et douce et romantique. Il y a le deuxième mouvement qui est la Steffi pétulante, rieuse, qui est la virtuose du violon aussi, qui est ce personnage plus extériorisé.
Et la pièce est beaucoup plus virtuose.
Voilà. Et puis en fait, comme Steffi reste assez indifférente à toutes les lettres d'amour, là on en cite une, mais pendant un an, il y a une avalanche de lettres. Et comme elle ne répond pas aux attentes, Bartók la menace d'écrire un troisième mouvement qui représenterait la Steffi froide et indifférente. Il dit mais ça serait de la musique laide. Et en fait, il va l'écrire cette musique après, puisque comme il donne le concerto à Steffi, qui n'en fait rien, qu'il met dans un tiroir, mais qu'il a gardé quand même une copie, il va faire par la suite les deux portraits pour violon et orchestre. Donc le premier violon qu'il intitule « Une idéale », ça reprend en fait le premier mouvement du concerto, la Steffi idéale, et après il fait le deuxième portrait qui est une caricature du premier, qui s'appelle « Une grotesque », et qui est ce fameux troisième mouvement qu'il écrit en fait comme vengeance ou pour clore le chapitre. Thank you.
un extrait des contrastes pour violon, clarinette et piano. Et c'est Bartók qui est ici au piano avec à la clarinette un musicien de jazz, Benny Goodman. Alors, est-ce que ça veut dire que Bartók se tourne aussi vers le jazz ?
C'était vraiment une rencontre de circonstances, je pense, mais c'est Sigeti qui avait organisé ça.
Alors, c'est le violoniste.
Le violoniste qui joue là. Alors c'est du jazz quand même revu et corrigé par Bartók, hein, ce qu'il reste quand même lui-même. Et puis c'est une œuvre où il y a d'autres influences. C'est aussi le dernier mouvement s'appelle Verbunkos. Il reprend l'esprit de la musique des tziganes de Hongrie, ce qu'on entend quand on va au restaurant à Budapest, le violoniste qui vient vous jouer sous le nez pour vous donner un billet. Voilà, c'est ça le Verbunkos. Enfin, voilà, il y a plus, c'est assez syncrétique, mais c'était une commande effectivement de Sigeti et Goodman dans l'esprit du jazz à la base.
Renaud Capuçon, quelle part de la carrière de Bartók vous concerne le plus aujourd'hui, parce qu'on vous connaît chez Mozart, Beethoven, Debussy, que vous avez joué récemment à la maison de la radio. Bartók, en fait, dans votre parcours, on le voit apparaître, en tout cas au disque, déjà en 2006, avec votre frère Gauthier. Vous aviez enregistré ce programme Invention et vous interprétiez les sept mélodies populaires hongroises. Quelle part, tiens, ce qu'on vient d'entendre, par exemple, ça fait partie du Bartók.
Ah oui, les contrastes, c'est une des œuvres que j'ai. Je crois que c'est la première œuvre de Bartók que j'ai jouée, à part les danses roumaines. J'ai attendu beaucoup pour les concertos parce qu'en fait, j'ai découvert assez tard le premier concerto, comme beaucoup. Il y a beaucoup de violonistes qui connaissent le deuxième et qui ne connaissent pas beaucoup le premier. Par contre, quand ils le connaissent, ils en sont tout de suite amoureux complètement. Et le deuxième, je le connaissais et il me faisait extrêmement peur. Dans le sens, pas peur, pas une peur physique, mais une peur de penser que j'étais pas, que c'était pas le moment. En fait, vous savez, dans la vie, il y a des timings, ce fameux kairos. Et si vous n'êtes pas dans le bon timing, en tout cas en ce qui me concerne, on est complètement à côté. Donc j'ai attendu jusqu'à jouer. Bon, j'ai joué la sonate pour violon seul, j'ai joué la sonate, les deux sonates pour violon et piano, dont la première avec Martha Argerich. Elle m'a, je dois dire, énormément aidé à me faire accepter que finalement il fallait que je pense sérieusement à jouer ce concerto. C'était il y a 10 ans, donc je prends le temps de faire les choses. Mais si on a l'impression que je fais beaucoup de choses tout le temps, en fait je prends énormément de temps pour différentes choses. Et puis c'est une question aussi physique, d'un moment où on sent qu'on a les épaules assez larges. J'avais l'impression qu'en fait, pour jouer ce concerto, il me fallait être capable d'exprimer cette rugosité qui est demandée dans le premier et surtout le dernier mouvement, et que avant je n'aurais pas été capable d'assumer certaines, entre guillemets, laideurs de son, enfin pas de laideurs, mais de certaines. Moi, je suis un tel amoureux du son, voilà, amoureux du son, que j'aurais privilégié tout le temps une forme de beauté de son, alors que là, j'y suis allé vraiment de façon beaucoup plus âpre, je dirais.
Mais moi, j'aime bien les personnes qui doutent. Moi, j'aime bien les vulnérabilités. Je suis plutôt attirée par ça. que par l'assurance comme ça, et que c'est ce qu'on veut. Aussi, je le remarque souvent dans les jeux. J'aime bien quand ça échappe un petit peu, quand il y a quelque chose qui échappe au contrôle total de la personne, quand il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Que malgré soi, moi j'aime, je trouve ça une ouverture. Je n'aime pas beaucoup les choses mises en place comme ça, d'une manière très carrée. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas progresser, qu'on n'a pas de désir d'aller, d'être, de progresser, d'être un peu mieux, ou qu'est-ce que ça veut dire d'être satisfait comme ça, être sûr de... Mais si vous pensez à des grands compositeurs qui sont morts dans la misère, comme Bartok, et presque aussi Prokofiev dans son propre pays. Et quand vous pensez à Van Gogh, qui a vendu un tableau dans sa vie, et alors, qu'est-ce que nous sommes, nous ?
Que sommes-nous ? Demande Martha Argerich, qui visiblement aime les gens qui doutent. Alors, quelle part de doute et d'assurance il faut pour jouer avec elle, Renaud Capuçon ? Vous entendez ici jouer ensemble la sonate numéro 1 pour piano et violon de Bartok, captée au festival de Verbier, c'était en juillet 2007.
C'est justement ça le qui est extraordinaire quand on joue avec elle, c'est qu'elle attend de ses partenaires, quand elle joue en musique de chambre, une forme d'assurance. C'est-à-dire une forme d'assurance et en même temps de mise en danger. Mais elle a besoin, elle-même, elle est extrêmement structurée, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'elle a un jeu très organique. Mais on peut avoir un jeu organique, comme elle a, et en même temps, bon, c'est aussi une personne exceptionnelle, donc elle est hors norme. Mais on peut avoir un jeu organique et être libre. Et c'est ce qu'elle exprime, en fait. Être libre et être, et aussi le doute. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous dit, oui, je crois que c'était un magnifique concert, ou j'ai effectivement très très bien joué, ou je suis, enfin,
là. Non, mais ça arrive vraiment?
Bien sûr, oui, ça arrive. Il y a des gens qui sont très jeunes d'ailleurs, qui sont très... peut-être c'est une défense, peut-être c'est une personnalité, mais en tout cas, vous avez des gens qui, à 30 ans, vous disent « Oui, je pense que je suis au summum. » Ok, bon, tant mieux pour eux. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a certitude, la notion artistique, elle s'évade, elle n'est plus là. Le doute fait partie intégrante, d'abord, je pense, de la vie d'un être humain. Et en tant qu'artiste, elle est perpétuelle. Le doute ne veut pas dire la fragilité, forcément. Le doute veut dire la remise en question. Et même s'il peut y avoir, par moment, une forme de fragilité, moi, je trouve que vous aurez toujours un cours de Isaac Stern à Verbier, et une jeune fille elle était très intimidée par lui. Et dans le concerto de Brahms, elle avait sur une dernière note l'archet qui avait tremblé, ce qui nous arrive à nous tous, les violonistes. Et on s'est tous dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il était très dur. Et il lui avait dit, cette phrase géniale, il lui avait dit, vous savez, vous m'avez ému avec votre dernière note, parce que là, j'ai vu votre émotion, alors qu'avant, je l'ai moins perçue. Et c'est très joliment dit. Ça veut dire que finalement, une fragilité parfois dans une phrase ou dans une note peut exprimer beaucoup plus qu'une forme de rigueur extrême.
Alors vous me disiez quand on l'écoutait que cette sonate pour piano et violon de Bartok, vous l'avez jouée seulement deux fois. Les deux fois, ça a été capté à quelques mois d'écart. Et depuis, vous n'y touchez plus.
Oui, alors je me suis pas... ça n'a pas été une décision ensuite. Il se trouve que je ne l'ai plus jamais joué. C'est chaque fois qu'on diffuse cette œuvre, je me dis en fait c'est fou. Il faudrait quand même que je la rejoue. Je les ai apprises avec Martha Argerich, ce qui est un luxe incroyable. Je les ai déchiffrées avec elle. Je les ai jouées avec elle et je ne les ai plus rejouées ensuite parce que effectivement, quand on me proposait de jouer ça juste après, j'ai dit bon, on peut peut-être faire autre chose. Quoi. J'avais envie de rester sur cette impression géniale. C'est grâce à Martha, pour Bartok en tout cas, que j'ai eu cette espèce de coup d'accélérateur, ou en tout cas elle m'a poussé dans mes retranchements sans rien me dire, mais sa façon de jouer, elle ne m'a pas laissé le choix, et c'est grâce à elle que j'ai réussi à aller à Bartok plus tard.
Alors on l'entendait aussi dans cette sonate, cet extrait de la sonate numéro 1, Claire de la Marche, il y a quelque chose de très folklorique, de la danse un peu populaire qu'on perçoit aussi, et vous avez commencé à l'esquisser en début d'émission, c'est quelque chose qui va avoir une part très importante dans la vie de Bartok, parce qu'il va se passionner pour la musique des Hongrois et des Roumains, notamment avec son ami Zoltán Kodály, qui seront ensemble parmi les premiers à aller collecter, et ça vous le racontez très bien dans votre livre, à aller collecter ce folklore. Ils vont noter, transcrire beaucoup de chants, mais chacun de façon assez différente. C'est ce que l'on comprend aussi à vous lire.
D'ailleurs, ils collectent ensemble au tout début, en 1905-1906, et puis très vite, en fait, leur chemin diverge parce que le but n'est pas le même du tout. Au début, il est le même, c'est-à-dire qu'ils sont fascinés par ce chant, ils veulent en collecter le plus possible, le faire connaître au plus grand nombre possible. Donc, comme on fait pour faire connaître des chants populaires, on les transcrit et puis on met un accompagnement de piano dessous. Et puis ça se vend dans les bonnes familles, on déchiffre ça et voilà un moyen de les faire se propager. Mais Kodály est resté là-dessus en fait, et il y a beaucoup des œuvres de Kodály qui sont des glorifications des airs populaires. Mais Bartók, assez vite donc, il s'en nourrit pour trouver son style et pour tourner la page de ce qu'il a appris en fait. Et à partir de ce moment-là, il aura une seule quête, en fait, c'est de trouver toujours des choses qui le font avancer. Donc, il commence par le chant populaire hongrois, après il découvre les danses populaires hongroises, qui sont déjà très différentes. Ce qu'on vient d'entendre, ça émane plutôt d'une danse que d'un chant. C'est d'autres échelles, c'est d'autres rythmes. Il élargit, parce que il faut savoir aussi qu'à l'époque, on est avant 1920, avant le traité de Trianon qui divise la Hongrie de deux tiers. Et donc, la Hongrie comprend la Slovaquie actuelle, plus toute la Transylvanie, donc une grosse part de la Roumanie, et c'est des territoires mélangés où il y a donc en Slovaquie des Hongrois et des Slovaques, et en Transylvanie des Roumains et des Hongrois. Et donc il a accès très facilement à toutes ces communautés, donc il élargit très très vite son champ de recherche au folklore slovaque, au folklore roumain, puis après il va même aller en Afrique, en Turquie. Tout ça, le but, c'est de nourrir son style, de trouver d'autres gammes, de trouver d'autres rythmes, de même formellement, par exemple, dans des chants roumains, il va prendre quelque chose qu'il va beaucoup exploiter après 1926, des formes très souples, avec des tout petits éléments qui se répètent, un coup à l'envers, un coup à l'endroit, etc. Et ça va être une forme qu'il aura pris dans des complaintes ou des ballades roumaines.
Dans Bartók, ce qui m'a attiré tout de suite, par exemple, c'est l'utilisation des petits intervalles, l'utilisation de ce qu'on appelle maintenant des bandes de fréquence, c'est-à-dire non pas d'un intervalle pur, mais d'intervalles conjoints très rapprochés, n'est-ce pas, de façon à former une épaisseur et non plus seulement une ligne. Ça, j'ai vu assez vite dans Bartók aussi. Et ce que ça m'a plus intéressé, par exemple, beaucoup plus ce que je pense qui est caduque dans Bartók, c'est-à-dire tout le côté folklorique, à mon avis, déjà maintenant vieilli assez vite. Je suis persuadé qu'il avait conscience de ça, puisqu'il a enregistré beaucoup de chants, par exemple, qui sont tous basés sur des intervalles plus petits que le demi-temps. Donc quand il écrivait, il y avait certainement une réminiscence de ça. Et je vous dis, dans son harmonie, par exemple, par moment, il y a des espèces d'accumulations de sons qui sont vraiment comme des épaisseurs, qui sont plus à considérer vraiment comme, par exemple, un do ou un ré, ou un do dièse suivi d'un ré, mais comme une épaisseur construite entre le do et le fa, par exemple, qui comporte tous les intervalles chromatiques. Mmh. Et ça, chez Bartók, c'est tout à fait unique dans la conception, par exemple, conception qu'on n'a jamais eue, ou Webern ou Schoenberg.
Pierre Boulez, en 1960, à propos de Bartók et Éclair de la Marche, vous me demandiez la date de cette archive, parce qu'il y a tout un enjeu autour de Bartók à ce moment-là.
Oui, c'est-à-dire que là, on est dans l'irruption de cette avant-garde dont Boulez émane, donc l'avant-garde de Darmstadt. Et puis en même temps, on est aussi dans le bloc, enfin il y a le bloc communiste qui s'est établi, la Hongrie et tous les pays de l'Est sont coupés du monde, et Bartók est devenu vraiment un enjeu quasiment politique. Dans son pays, par exemple, on a reproché aux Américains de l'avoir laissé mourir dans le dénuement. À l'inverse, on a reproché aux Hongrois de bannir sa musique parce qu'il y avait beaucoup de choses, tout ce qui était trop moderne qui était à l'index. Et musicalement, bah, il y a vraiment des écoles qui ont rejeté quasiment tout Bartók. C'était le cas de cette école de Darmstadt, de Boulez, de modernistes, qui ont rejeté quasiment tout Bartók en disant que c'était trop folklorique, ce qui reste vraiment à prouver. Et qui ont sorti, voilà, ils voulaient bien écouter la musique, le cinquième quatuor, quelques œuvres choisies des années 30, et tout le reste était banni. Puis petit à petit, évidemment, ils ont fait le chemin inverse, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup à prendre de partout.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Une question sur Bartók et la France. Parce que si vous vous promenez autour de la maison de la radio, il y a un parc Béla Bartók qui est juste de l'autre côté, là, près de Beaugrenel. Et puis il y a une statue en bronze qui le représente avec un chapeau, le néo. Quels sont les rapports de Béla Bartók et de la France? Puisque vous le remarquez dans votre livre, finalement il donne quoi, 15 concerts en France, alors qu'il en donne 47 en Allemagne et plus de 80 aux États-Unis. Donc ça n'est pas ici qu'il fait carrière. Mais il est très attaché à la France.
Oui, alors il y a beaucoup de choses qu'il a pris dans la France. Déjà, il aimait ce pays sincèrement, il aimait Paris, il aimait la Côte d'Azur, il aimait les Alpes. Il y a quelque chose qui a énormément joué. On parlait de cette période des années 1905-1908 où il se cherche, et du rôle du folklore hongrois dans ce tournant. Mais il y a quelque chose qui a aussi énormément joué, c'est la découverte de Debussy, qui a été un peu l'antidote à la musique germanique, vraiment. Voilà, il a toujours un rapport très fort. Il a eu sa première grande blessure narcissique, je pense, aussi à Paris, qui était le concours Rubinstein, qui est un concours qui avait lieu tous les 5 ans ou 4 ans dans des capitales différentes. Et il a concouru en piano et en composition. Il a eu le prix ni dans l'un ni dans l'autre. Et ça a été vraiment son premier grand échec, où alors il arrivait en conquérant, en pensant être le meilleur dans les deux. Mais en même temps, pendant toute cette période, il a énormément... Donc en 1905, il avait 23 ans. Et il a beaucoup visité, il a toujours gardé un attachement à Paris. Et puis, même s'il a donné relativement peu de concerts, c'était des concerts très importants, la rencontre de Ravel, des choses comme ça, l'admiration pour Debussy. Puis, il a souvent aussi transité par la France pour aller dans d'autres pays.
Alors, on va se tourner vers ce fameux concerto numéro 2 dont on a parlé en début d'émission, composé, lui, dès 1936, une pièce tourmentée où la sombre souveraineté, comme vous le dites, de Renaud Capuçon se fait sentir. Le final Allegro Molto du deuxième concerto pour violon et orchestre de Béla Bartók, le London Symphony Orchestra sous la direction de François-Xavier Roth. Et vous êtes au violon Renaud Capuçon, ça c'est un disque qui vient de paraître chez Erato. Comment est-ce qu'on sort en concert ou en enregistrement d'un tel duel?
Alors c'est étonnant parce que je pense qu'il y a 10 ans ou 15 ans je serais sorti sur les rotules, mais totalement sur les rotules. D'ailleurs c'est pour ça que je ne jouais pas, parce que je pensais que j'étais pas capable d'aller au bout, même au point de vue de l'endurance. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas tellement un défi, c'est d'abord une joie incroyable de jouer ce concerto, c'est très excitant, c'est comme gravir une montagne, mais avec l'idée qu'on va la gravir, mais on sait qu'on peut y arriver. Donc c'est pas comme la chose où on est apeuré à l'idée de pas arriver à la moitié. Et il y a un vrai combat avec l'orchestre, mais je me sens en phase maintenant, je me sens capable d'assumer ça. Et donc c'est très excitant parce que c'est vraiment une, surtout quand on joue avec des chefs d'orchestre qui sont des amis, il y a quelque chose de très il y a une émulation formidable. Et puis on peut aller aussi, j'ai un instrument qui était celui des Axtern, qui est un magnifique Del Jésus de Guarnarius. Ce violon m'aide énormément aussi, parce que Stern a énormément joué ses deux concertos sur ce violon. Alors je dis pas que j'ai l'impression qu'il les a joués.
Il garde la mémoire.
Non, mais je pense que les vibrations, le bois a une mémoire. Ça, je suis persuadé qu'il y a une mémoire des vibrations. Et au-delà de ça, c'est un instrument qui a des consonances graves et qui me porte aussi, qui m'aide énormément à concourir, je dirais, dans cette idée-là.
Bon, il faut que je précise aussi qu'on pourra vous entendre l'interpréter ce concerto à la Philharmonie de Paris les 19 et 20 septembre et puis aussi en décembre, Claire de la Marche, vous me le signaliez, à l'Auditorium de Lyon. Donc on pourra vous
avec
entendre.
Avec l'Orchestre de Lyon, absolument.
Voilà. Au départ, cette œuvre, il faut parler du violoniste pour qui elle est écrite. Au départ, c'est très important. Donc il s'agit de Zoltán Sikály, un grand violoniste et ami de Bartók. Et il lui demande, ce final, il le trouve un petit peu trop âpre, il lui demande de le reprendre, de le refaire. On se demande ce que ça devait être, parce que c'est quand même déjà assez élevé. Donc c'est un violoniste qui peut avoir un impact fort aussi sur le compositeur.
Ce qu'il a demandé surtout de refaire, c'est la fin, parce que là, on a entendu que ça finit en feu d'artifice pour le violon, et c'était pas le cas au début. Sikály avait une vision assez conventionnelle de ce qu'est un concerto, notamment il voulait trois mouvements, alors que Bartók voulait une grande forme à variation. Donc lui, il tenait à ses trois mouvements, vif, lent, vif, comme d'habitude, pour montrer toute la palette de ce qu'il sait faire. Et puis donc, cette coda, il l'a fait réécrire pour finir, pour déchaîner les applaudissements, parce que je crois qu'on entend ce qu'on a entendu sous les doigts de Renaud, on n'a qu'une envie, c'est d'applaudir à tout rompre, et il fallait cette fin-là.
C'est ce qui est passionnant, pardon, dans le rapport entre un violoniste et un compositeur. On a ça avec Brahms et Joachim, on a ça là avec Sikály et Bartók. C'est que justement, quand l'instrumentiste est proche du compositeur, il peut se permettre de lui dire des choses et les compositeurs changent. Voilà. Et moi aujourd'hui, je fais la même chose avec des compositeurs vivants et non
parce
pas que leur fait changer des choses.
Oui, Wolfgang Grimm,
énormément de
Bruno Mantovani,
voilà, et dans les bientôt d'autres, notamment Benjamin Attahir, qui est un jeune compositeur formidable. Et là, je suis dans une sonate de Du Sapin qui va être créée dans un mois. Et ce qui est génial, c'est le fait de pouvoir parler à ces compositeurs. Ils sont là en face de vous. Et parfois, ils changent. Je me souviens d'Utilleux changeant 15 ans après l'écriture du concerto pour violon qui avait été créé par Stern, au moment de l'enregistrement avec Chung. Et il a dit, en fait, vous savez, vous faites cette nuance-là, c'est pas écrit, mais c'est beaucoup mieux, on va la rajouter. C'est extraordinaire, d'abord, d'ouverture d'esprit, mais aussi, je suis persuadé que les compositeurs, ils préféreront toujours une interprétation sincère et engagée d'un interprète plutôt qu'une interprétation absolument rigoureuse mais aseptisée de ce qu'ils ont écrit.
Thanks. Aragon, il fallon fu da rosa, c'è lì che t'intanzolano.
La Bolonch, chi sa parlo?
Comme il est sombre ce château, dit Judith en entrant dans le château de Barbe Bleue, cet opéra en un acte composé en 1918 par Bartok. Alors ce qu'on entend, c'est une très belle production qui a été présentée récemment à l'Opéra de Paris sous la direction d'Esa-Pekka Salonen. C'est Katrina Gubanova qui joue Judith et puis le très beau basse John Relay. On peut trouver ça en DVD. C'est étonnant ce thème répétitif des cordes qu'on entend à l'entrée de Judith dans le château. Quelle place tient dans cet opéra à la fois horrifique et fascinant dans la carrière de Bartok?
C'est son unique opéra, donc c'est une place unique, évidemment. C'est une œuvre de relative jeunesse qu'il a écrite. Ça a été créé en 18, mais il avait écrit 7 ans plus tôt. C'est un cadeau de mariage, figurez-vous, à sa première femme. Alors, le premier mariage, il a très vite tourné court. Ils sont restés très amis, hein. Il n'y avait pas d'animosité, mais voilà, il n'y avait plus d'amour assez rapidement. Et c'est un opéra sur l'incommunicabilité entre l'homme et la femme. Voilà, c'est un curieux cadeau de mariage.
On peut le dire,
oui. Parce que le sujet, donc, faut raconter. Judith a épousé Barbe Bleue, elle arrive dans le château, elle va demander à tout voir. Elle trouve que le château est très très sombre, et oui, tout est fermé. Et elle va demander à ouvrir les 7 pièces, les 7 portes.
Les 7 portes pour faire entrer la lumière.
Voilà.
Et en fait, chaque porte est un aspect de la personnalité de Barbe Bleue. Donc il commence par montrer ce qu'il y a de plus affreux en disant elle arrêtera de poser des questions, donc il montre la salle de torture et des choses comme ça. Puis après, il commence à montrer les choses plus agréables, le jardin, le domaine, la salle du trésor. Mais tout se teinte de sang à chaque fois. Donc il y a une vision déjà de ce qu'il y a derrière la porte. Et puis tout à coup, une cacophonie dans l'orchestre, parce que Judith voit du sang partout, donc le doute s'installe. Et si les rumeurs sur la mort des anciennes femmes étaient vraies, et elle fait ouvrir la dernière porte, et elle voit derrière les 3 précédentes femmes qui sont vivantes, parce qu'elles sont vivantes, on est, rappelez-vous, dans la tête de Barbe Bleue, symboliquement, et donc elles sont vivantes dans le souvenir de Barbe Bleue, mais en même temps qu'elles découvrent ça, qu'elles découvrent qu'elles ne sont pas mortes, elle est elle-même, elle entre elle-même dans le souvenir et dans la 7e porte, et donc le mariage est terminé, et comme elle était la nuit, puisqu'il y avait le matin, le midi, le soir et la nuit dans les 4 femmes, la vie de Barbe Bleue est noire à jamais, et joyeux mariage.
Curieux cadeau de mariage, quand même.
Et puis après, il écrit le Prince de Bois qui raconte les mêmes choses, et le Mandarin Merveilleux qui raconte encore la même chose, sous des formes très différentes. Et après, enfin, il divorce, il se remarie, et il parle d'autres choses, il fait des quatuors à cordes, et des concertos, et voilà.
Il y a une noirceur, quand même, qui est récurrente. On l'a dans le concerto pour violon aussi, dans certains passages, avec des passages, au contraire, comme dans le second mouvement, qui sont d'un onérisme incroyable, presque élégiaque. Et puis dans le final, il y a des passages vraiment qui sont très, très, très noirs, très sombres, qui font penser à Barbe Bleue, d'ailleurs.
Oui, mais alors là, la signification est peut-être différente.
Bien
c'est-à-dire
sûr,
que
oui.
C'est vraiment là, c'est la guerre, c'est le nazisme, c'est tout ça qui traduit dans ces passages très, très ironiques, très, très mordants, qui font presque mal. Voilà, c'est cette souffrance-là. Il n'est plus du tout dans le même champ d'action. Mais bon, c'est quelqu'un qui a une propension à souffrir à la base, donc c'est toujours un bon sujet.
Il y a une question morale à vous poser à tous les deux, puisque tout à l'heure, Renaud Capuçon, vous disiez qu'il y a des œuvres, il faut attendre le bon moment, il faut devenir la bonne personne pour pouvoir être en capacité de la jouer. Et il y a cette expression qu'on trouve au début de votre livre, Claire de la Marche, sur Béla Bartok, où vous parlez de l'homme juste. C'est Zoltán Kodály qui emploie cette expression à propos de Bartok. Qu'est-ce que c'est que l'homme juste en musique ?
Bonne question. Je pense que tout Bartok est là, c'est-à-dire effectivement. Alors il était juste déjà dans ses opinions politiques. On disait voilà que notamment il s'est opposé assez fortement à toutes les persécutions qu'il a pu avoir entre les deux guerres, et il est parti en 40 parce qu'il supportait plus ce qui se passait chez lui.
On aurait pu penser qu'il y avait une volonté nationaliste, en fait, dans ce projet de mettre en avant le folklore, de retrouver les racines. Ça peut aussi vous mener là.
Ça, c'est ce qu'il avait en 1904 et 1905, ouais. Et puis il l'a tout de suite quitté, puisque après, c'est devenu vraiment la nourriture de son style pour évoluer, pour trouver de nouvelles choses. Et justement, il est devenu extrêmement pacifiste. Il a justement écrit des œuvres où sciemment il mettait ensemble tous les folklores, parce que lui il rêvait d'une grande Europe centrale qui vive en bonne intelligence où tous les peuples seraient dans une fédération. Parce que faut voir aussi que tous ces pays-là, c'est des mosaïques de nations. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être en paix parce que tout le monde est imbriqué dans tout le monde. Donc, si vous donnez telle province à tel pays, ben, il y a des minorités qui sont malheureuses et inversement. Donc, c'est insoluble. Et donc, lui disait, mais pourquoi on n'est pas tous ensemble, point barre. Et puis, il l'a fait en musique, notamment, par exemple, dans la suite de danse, qui était... En 1923, il y a eu la célébration des 50 ans de l'unité de Budapest, qui était faite de trois communes à la base, et qui s'est rassemblée pour faire cette grande capitale du grand royaume de Hongrie, d'après le compromis de 1867. Et pour le cinquantenaire, donc, Kodály a fait le Psalmus Hungaricus, qui était un chant de la nation opprimée, etc., après la perte... Des territoires en 1920. Dornani a fait une ouverture festive qui était de circonstance. Et Bartók a fait la suite de danse en mêlant tous les folklores d'Europe centrale en disant, moi, je veux pas être dans ces cérémonies nationalistes, etc. Je crois au syncrétisme des nations. Il s'est fait vraiment attaquer dans ces années-là par les nationalistes hongrois, donc les revanchards du traité de Trianon, qui l'ont sommé de choisir leur camp en disant, vous êtes un compositeur roumain, slovaque ou hongrois, dites-nous. Et puis il a aussi défendu Kodály et Dornani quand ils ont été embêtés à l'Académie de musique. Enfin, c'était injuste dans sa vie et c'était évidemment injuste en art puisque il avait ce respect du ce qu'on disait tout à l'heure exactement, c'est-à-dire le socle très sûr, le socle très respectueux du texte pour pouvoir avoir une liberté par-dessus.
Pour moi, pour répondre à votre question par rapport à qui, qu'est-ce qui est par rapport à être juste. D'abord, c'est à chacun, juste, ça veut tout dire et rien dire. Pour quelqu'un, être juste, c'est pour quelqu'un d'autre, ça va être, ne pas l'être du tout. Mais pour moi, l'exemple, c'est Adolphe Busch. Voilà. Pour moi, c'est un vrai juste parmi les musiciens et les êtres humains, voilà, qui a fui le nazisme en 33, alors que commençait seulement le début de Hitler et qui n'a jamais remis les pieds en Allemagne, alors qu'il était un des plus fameux violoniste allemand, et il a résisté à toutes les pressions, et voilà, donc ça c'est être juste. Et ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aussi à l'interprétation, chacun a sa façon, par rapport à être juste dans une interprétation, chacun a sa façon de voir les choses, et ce que je vous disais par rapport au timing, d'attendre le bon moment, etc., pour moi c'est comme ça, mais pour quelqu'un d'autre ça peut être exactement l'inverse. Vous avez certaines personnes qui ont une sorte de par exemple pour Bartók, qui peuvent jouer Bartók à 15 ans et qui ont quelque chose à dire et qui se sentent prêts, et c'est formidable. Je crois que chacun a sa véritable je dirais dramaturgie dans sa vie.
À la Yougoslave de Béla Bartók, tiré de Microcosmos. Vous connaissiez cette version, Claire Delamarche ?
Pas trop, non.
Alors, Bartók, joué au clavecin et guitare électrique. Bah, c'est possible, la preuve par Xavier Boussiron. Il est plutôt connu du côté du théâtre aussi. Il est musicien, bien sûr, mais aussi metteur en scène, Xavier Boussiron. Et puis au clavecin, c'est Marie-Pierre Bréban. C'est un disque qui était paru il y a quelques temps. Microcosmos, c'est un ensemble de petites pièces à vertu quoi, pédagogique.
Oui, tout à fait. Il écrit ça au départ pour son fils qui apprenait le piano. Puis quand le gamin avait 7 ans à peu près, il trouvait que ce qu'on lui donnait à travailler, c'était quand même pas terrible. Donc il a commencé à écrire des petites pièces. Puis il a étoffé ça et c'est devenu vraiment un manifeste de compositeur en fait. Donc il y a 153 pièces qui vont de choses très simples à des choses diaboliques, qui sont les danses bulgares à la fin sur des rythmes complètement irréguliers que des tas de gens n'arrivent pas à mettre en place. Et il y a, c'est tout son art est résumé. Il y a vraiment toutes ces techniques de composition, tous ces caractères, tout ce qu'on peut trouver par ailleurs, mais dans des petites pièces très courtes.
Voilà, ce qui peut-être est une façon de prolonger le fameux proverbe, hongrois, la suggestion est l'art d'enseigner.
Ah ben, voilà, c'est un beau proverbe, je vais tâcher de le retenir.
Il y a à retenir. Alors on se quitte avec la pièce dont il a été question en ouverture d'émission, la musique pour cordes, percussions et célesta de Béla Bartók. Comment se fait-il que cette œuvre soit devenue la plus célèbre? Parce que c'est vrai qu'on l'a vu au cinéma dans Shining, il y a cette fameuse scène où on voit l'enfant sur sa voiture à pédale qui va rouler dans les couloirs de cet hôtel terrifiant et s'arrêter devant la chambre interdite numéro 237. Alors qu'est-ce qui fait la fortune de cette pièce d'après vous? Vous en avez tous les deux parlé dès le début.
Moi, je dirais le fait que c'est une œuvre juste grandiose, c'est une œuvre exceptionnelle. Du Kubrick, là, s'en est servi. Je pense que sans Kubrick, la pièce, c'est pas Kubrick qui a fait connaître Bartók. Mais le fait même que Kubrick se soit servi de cette pièce illustre le fait qu'elle soit aussi incroyable et qu'elle parle, qu'elle donne des images. Et au-delà de ça, je pense que Claire va pouvoir l'expliquer peut-être d'un point de vue musical beaucoup plus intelligemment que moi.
Ce mouvement lent qui a été utilisé dans Shining, là, c'est vraiment le prototype de la musique d'horreur. Après, on n'a plus écrit pareil pour les films d'horreur. On a gardé ces effets. Je pense que il y a deux choses déjà. Bartók, c'est vraiment l'apogée. Ses œuvres des années 35 à 38, c'est vraiment là où il est, où son génie est vraiment incandescent. C'est-à-dire qu'il a la pleine maîtrise de son métier. Il est au sommet de sa recherche, c'est-à-dire que depuis 1926, il est dans une deuxième vague de composition, dans une deuxième vague de recherche sur un nouveau type d'organisation, des toutes petites cellules qui partent dans tous les sens et qui forment un réseau très dense. Et voilà, il est dans des recherches sonores aussi depuis toutes ces années-là. Et puis ça aboutit, 10 ans plus tard, ça aboutit dans cette musique. Il y a des effets incroyables, quoi. Personne n'a utilisé la timbale comme ça avant. Il y a des glissandos de timbale. Déjà, rien que ça, vous êtes dans un film d'horreur. Rien que le fait aussi de mêler le célesta, le piano, les percussions, les cordes. Déjà, ça crée déjà une atmosphère unique. Et puis, ça fait partie, on le disait tout à l'heure, de ces pièces que vous pouvez décortiquer pendant des années et des années sans en voir le fond. Et en même temps, il y a une part totalement instinctive, quoi. C'est extrêmement construit. Il y a même des gens qui ont essayé de trouver des nombres d'or, etc. Là-dedans, tellement il y a un sens de la dramaturgie, de la construction qui est fort. Puis en même temps, un instinct, une émotion très directe.
Thank you.
Et on se quitte avec cette musique pour cordes, percussions et célestas de Béla Bartók. Ça, c'est une version jouée par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigée par Pierre Boulez en 1973. Merci à tous les deux, Renaud Merci. Capuçon. Je rappelle que votre disque Bartók Concerto numéro 1 et 2 vient de paraître sous le label Erato. On pourra vous entendre en concert le 7 juin au Beaux-Arts à Bruxelles, le 10 juin au Festival de Saint-Denis, le 13 juin à Albi et les 15 et 16 à Versailles. Il y aura d'autres dates, hein, la Philharmonie Paris notamment en septembre et puis l'Auditorium de Lyon en décembre. Merci beaucoup Claire Delamarche. On peut continuer l'exploration de l'œuvre de Bartók avec cet ouvrage de référence où il y a vraiment énormément de choses à apprendre à propos de Béla Bartók. C'est un livre qui est bien édité chez Fayard. Toutes les informations à la programmation musicale sont à retrouver à la page internet de l'émission Continent Musique sur franceculture.fr, ainsi bien sûr que la réécoute et le podcast. Vous n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez tout, c'est gratuit. Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration indispensable de Pascaline Bonnet, réalisation Olivier Guérin, à la prise de son ce soir Xavier Lévesque. Merci à Anne-Laure Veil de Lina et Antoine Villos de la discothèque de Radio France. Les programmes continuent, restez en bonne compagnie sur France Culture. Bonsoir.